Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Bonjour à tous, c'est parti pour une heure d'émission pour décortiquer toutes les solutions qui sont à notre disposition pour construire un monde meilleur. Et on va vous montrer qu'il n'y a rien de compliqué. Au contraire même, on va vous parler d'actions applicables directement dans notre quotidien, parce que faire bouger les choses, ça commence par nous. Et en plus, vous allez voir, agir à son niveau, c'est bon pour la planète, mais ça permet aussi de faire des économies d'argent, de gagner du temps, et tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne tous les Français. Non, on va pas parler de foot, mais on va parler d'alimentation. Dans un pays comme la France, bien manger, c'est notre sport de prédilection, mais on parle encore assez rarement de l'empreinte carbone de notre assiette. Et même si je sais qu'on marche sur des œufs avec ce sujet, on va prendre le temps de nous présenter des initiatives concrètes pour vous aider à faire le lien entre votre alimentation et l'environnement. Et j'ai la chance, j'ai avec moi Hélène Dédény, la spécialiste du zéro déchet. Salut Hélène.
Bonjour Julien.
Et Anne-Sophie de One Art qui nous partagera tout à l'heure son bon plan. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Julien.
Allez Zou, on y va.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
C'est déjà la deuxième émission de Ça commence par nous. Et après avoir parlé la semaine dernière de mode éthique, aujourd'hui on va s'attaquer au sujet de l'alimentation durable. 7 milliards d'humains à nourrir. Vous imaginez bien que ce n'est pas sans conséquences sur la planète et son environnement. Pour vous donner quelques chiffres concrets, on parle quand même de 60 milliards d'animaux tués chaque année, soit 15% en tout, des émissions de CO2 dans le monde. Un quart des récoltes seulement sont destinées à notre alimentation. Et cerise sur le gâteau, sur les 4 milliards de tonnes d'aliments produits annuellement, presque 2 milliards ne parviennent jamais dans notre assiette. Aïe, 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 aïe. Et pendant ce temps-là, la planète, elle chauffe et près de 800 millions de personnes souffrent de la faim. Alors qu'est-ce qu'on fait? On change toute notre alimentation? Non, pas du tout. Il suffit seulement de se rendre compte de ce qui se passe dans notre assiette et de prendre 2 ou 3 bonnes habitudes pour changer la donne. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'y passe dans notre assiette? On a la chance d'accueillir Jean-Luc Fessard de l'association Bon pour le Climat qui va nous aider à décrypter tout ça. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Julien.
Alors, Bon pour le Climat, qu'est-ce que c'est?
Alors, Bon pour le Climat, c'est une association que j'ai créée et que j'anime, qui travaille sur ce que j'appelle moi la transition alimentaire, c'est-à-dire comment on peut faire évoluer son alimentation. Et on a fait le choix, nous, de mobiliser les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration sur ce sujet. Alors, on leur demande aux professionnels qui adhèrent à notre association, non pas de retirer, il s'appelle l'andouillette, il s'appelle l'entrecôte, ils conservent ça, mais de mettre au minimum un menu qu'on appelle bon pour le climat parce qu'il est à base de 3 critères. D'abord, le respect de la saison, ensuite, le local et enfin, le végétal. Alors, pourquoi ces 3 critères? C'est parce que quand on parle de poids carbone d'une assiette, vous savez, pour la production des animaux, pour la production des fruits, des légumes, pour leur transport, pour leur conservation, on dégage ce qu'on appelle des gaz à effet de serre.
Le fameux CO2.
Alors, le CO2, mais aussi, très important dans l'alimentation, le méthane.
Bien sûr.
Et le protoxyde d'azote. Alors, je vais expliquer un peu. Si vous voulez, si on regarde une assiette, on s'aperçoit que ce qui pèse le plus de poids carbone, c'est malheureusement des viandes excellentes, délicieuses, c'est l'agneau, c'est le bœuf. Mmh. Et puis après, on va avoir le poisson, après avoir le porc, et enfin, on va avoir la volaille et le végétal.
Mais du coup, c'est quoi une assiette bonne pour le climat?
Alors, une assiette bonne pour le climat, c'est une assiette qui ne dépasse pas 2,2 kg de ce qu'on appelle l'équivalent CO2. Alors qu'en moyenne, un repas, c'est 2,5 kg.
D'accord.
Alors, comment on arrive à 2,2 kg? Ben, c'est parce qu'en fait, pourquoi l'agneau, pourquoi le bœuf ont un aussi mauvais poids carbone? C'est parce que ce sont des ruminants et ils ont, en ruminant, la désagréable habitude de rôter. Et en rôtant, ils dégagent ce qu'on appelle du méthane. Et le méthane a un poids calorifique de 28 fois supérieur au CO2. Donc, ces animaux, même si vous les élevez dans d'excellentes conditions, vous les élevez, ils sont élevés en herbe, ils sont nourris avec des ingrédients qui viennent des céréales, qui viennent que de la ferme.
Ils polluent quand même.
Malgré tout, malgré, voilà. Donc, nous, on dit, malheureusement, ces animaux font manger le moins possible.
Parce que, par exemple, tout à l'heure, avec mon cher producteur, je suis allé manger et il a pris un bœuf bourguignon et moi, j'ai pris une quiche végétarienne.
Voilà.
Laquelle a le plus d'impact?
Alors là, il n'y a pas photo. Le bœuf, faut savoir, c'est pour un kilo de bœuf, c'est près de 30 kilos de CO2.
Ah oui.
Donc, c'est un bœuf bourguignon, c'est délicieux, c'est excellent. Mais malheureusement, le poids carbone est désastreux.
J'ai fait le calcul sur votre comparateur. Un bœuf bourguignon, c'est 5 kilos de CO2. Une assiette végétarienne, c'est 500 grammes.
Voilà, c'est
du simple au décuple.
Voilà, exactement.
Et donc, du coup, ce calcul, je l'ai fait sur votre site. Hein.
Voilà, parce que sur notre site, c'est www.bonpourleclimat.org, on a mis ce qu'on appelle un éco-calculateur. C'est un outil qui permet d'aller calculer le poids carbone d'une recette. Et on demande, par exemple, aux chefs qui adhèrent à notre association de faire des recettes et puis d'aller calculer le poids carbone de ces recettes. Et là, ils ont des fois de sacrées surprises parce que beaucoup de chefs sont habitués à travailler avec du respect de la saison. Alors, le respect de la saison, c'est important parce que si c'est hors saison, il y a du stockage, il y a de la conservation, il y a de la production en serre chauffée. Donc, pas forcément, mais de toute façon, au moins en serre chauffée. Donc, de toute façon, le poids carbone est désastreux. L'autre critère qui impacte beaucoup, c'est le fait de privilégier le végétal parce que, je l'ai dit tout à l'heure, entre le végétal et l'animal, enfin si on parle du bœuf, c'est un rapport de 1 à 10. Donc une assiette végétarienne, il n'y a pas photo par rapport à une assiette de viande. Mais il y a un critère extrêmement important,
il
faut que ce soit bon.
Voilà, parce que si ce n'est pas bon dans l'assiette... Parce que je sens les auditeurs qui ont tous le poil qui s'hérisse en train de nous dire il veut qu'on soit tous végétariens, ce n'est pas ce qu'on dit quand même.
Non, justement, ce n'est pas ce qu'on dit. On dit déjà un des critères simples dans un restaurant pour voir s'ils sont dans notre démarche, dans notre logique. On regarde l'assiette et il y a quelle est la proportion d'animal par rapport au végétal. La culture gastronomique française, c'est en général 2/3 de viande pour 1/3 de végétal.
Le fameux steak frites avec les frites qui sont le légume en plus.
Voilà. Et donc c'est la proportion est doit être inversée. C'est-à-dire c'est 1/3 d'animal pour 2/3 de végétal. Déjà, ça, si vous arrivez à ça,
d'accord,
c'est bien. Mais surtout, le premier critère, on peut manger du végétarien, ça peut être excellent, mais il faut que ça soit excellent, parce que la personne qui a pris un plat végétarien regrette son steak frites, nous, on a perdu.
Exact.
Donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit tellement délicieux qu'il ne regrette pas son steak frites.
Excellent, et on va voir qu'il y a plein effectivement d'opportunités pour nous de faire que ça soit excellent. Merci Jean-Luc, on vous retrouve tout à l'heure. Mais ça fait quand même du bien d'entendre qu'on peut manger autre chose que des graines pour sauver la planète. Tout de suite, on se fait un break musical, on continuera ensuite avec nos prochains invités pour tout savoir sur l'alimentation durable. Marie, du restaurant Vermidi, nous expliquera comment être un restauracteur. Angèle, elle, nous donnera ses astuces pour avoir une nourriture bio, locale et bonne pour la santé. Et Colette nous parlera de ses confitures rebelles faites avec des fruits et légumes qui auraient dû terminer à la poubelle. À tout de suite.
Yeah. Je suis un petit éléphant. Je suis un petit éléphant. De branche en branche, croquer dans les anges, gronder les ondes. Classe en soi, seul en automne, j'irai danser dans les bois, oui. De branche en branche, croquer dans les anges, gronder les ondes. Classe en soi, seul en automne, j'irai danser dans les bois, oui.
De retour sur Ça commence par nous. On se fait une petite pause de publicité et on revient tout de suite. À tout à l'heure.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
De retour dans Ça commence par nous, c'est l'émission qui vous donne des actions concrètes pour faire bouger les choses à votre échelle. C'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage. On accueille tout de suite Marie Ménajowski-Poirier du restaurant parisien Vers Midi. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors Marie, j'ai une question pour vous. Restaurateur, hein, c'est pas que je prononce mal, c'est un vrai concept qui vient de la fusion des mots restaurateur et acteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus s'il vous plaît?
Ben, un restaurateur, en fait, c'est un restaurant qui est responsable de ses achats. Il va réfléchir à ce qu'il va mettre dans son assiette, à aussi la construction de son établissement et être conscient de l'impact sur l'environnement. Et que d'être conscient que tout achat que nous faisons, comme un consommateur, a une conséquence sur notre environnement et en plus sur notre santé.
C'est les deux phases un peu, les deux faces de l'assiette, pardon, parce qu'on dit toujours le consommateur, mais il y a aussi des personnes qui mettent cette nourriture dans l'assiette, en fait.
Exactement, tout à fait. Et surtout qu'en tant que restaurant, j'estime qu'on a une grande part de responsabilité. Certes, il faut à la fois faire plaisir, qu'on puisse avoir du goût dans l'assiette, mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'on est obligé de quand même prendre conscience de notre poids sur la planète si on veut espérer garder notre planète ou vivre à peu près décemment sur cette planète. Enfin, voilà, je pense que chacun doit être conscient de nos actes, et aussi bien professionnels que particuliers.
Donc c'est un message, là, tout de suite, qu'on passe à tous les restaurateurs. Oui, vous avez un rôle à jouer dans la construction d'un futur qui soit meilleur, en préservant l'environnement.
Exactement.
Et c'est tous les jours.
Exactement, c'est tous les jours, au quotidien et à toutes les échelles.
Et vous, vous êtes du coup restauratrice à la base, hein?
Oui.
Avec Vers Midi?
Depuis 15 ans,
et ah oui.
Vers Midi depuis 10 ans.
D'accord.
Et voilà, et donc c'était de la restauration de qualité, respectueuse des saisons. Mais depuis 6 mois, on a voulu vraiment être encore plus engagés. Donc on est venu 100% bio. Mm-hmm. On s'est engagé pour Bon pour le Climat également. On a calculé notre poids carbone. En moyenne, c'est un poids de 300 grammes. De CO2.
Par repas.
Voilà, en moyenne, l'ensemble de nos plats sont en moyenne de 300. Ouais.
C'est en dessous de la moyenne végétarienne.
Voilà, exactement. Et on a de la viande dans notre assiette. Mais on a décidé de changer les proportions. que ce ne soit pas la part animale qui représente les trois quarts de l'assiette, mais plutôt bah voilà, un quart, un tiers. Et de jouer avec les légumes, les épices, les saveurs, et de jouer avec le légume. C'est le légume qui est la star. Et qu'en fait, c'est plutôt la viande qui vient apporter un goût dans certains plats, parce qu'on propose quand même des plats végétariens. Mm-hmm. Mais quand il y a de la viande, que ce soit plutôt la viande qui soit la petite touche en plus. Mais d'accord. La star, c'est le légume, en fait.
Mais donc, du coup...
Et pour le coup, on a de la viande de qualité. Du poulet qui est gambadé dans l'herbe, de fermier français, la belle rouge, qui n'a pas été enfermé en cage, qui a pu gigoter ses muscles.
Et tout ça, ça coûte hyper cher?
Eh bien oui, effectivement. Pour vous donner une idée, le poulet qu'on utilisait avant, il était européen. Bon, bah, c'est déjà pas mal, il était européen, mais il coûtait 5 euros le kilo. D'accord. Je ne veux même pas savoir comment il vivait, ça devait être pas terrible. Et là, aujourd'hui, on a un poulet français, fermier, label rouge, voilà, qui vraiment il vit heureux. Et il coûte 25 euros le kilo. Voilà. Donc, ça a un impact. Il faut en être conscient. Par contre, on en mange moins souvent, mais de qualité. Et ça, ça va se répercuter dans notre corps, en plus.
Et
en
les
plus
clients
de la planète.
De Vermidi.
Eh bien, certains sont contents, certains, ça les a perturbés, mais ils sont agréablement surpris de justement ces saveurs et surtout d'être rassasiés. Parce que quand on mange vraiment des produits de qualité avec des nutriments, finalement, le cerveau envoie le signal de satiété beaucoup plus tôt. En fait, ce sont les nutriments qui vont nous rassasier. Et quand on mange des aliments un peu vides, voilà, où il n'y a pas, où aussi bien le légume que l'animal n'a pas eu les vertus qu'il fallait, eh ben on ne se nourrit pas, en fait. Et en plus, on détruit la planète.
Et au porte-monnaie, pour le client, ce n'est pas forcément plus cher?
Eh ben non, parce que les légumes viennent compenser tout ça. Donc en fait, ce 25 euros le kilo, certes, nos plats qui contiennent de la viande sont un petit peu plus chers pour faire prendre conscience. Déjà, bon, parce que ça nous coûte un peu plus cher, mais on va avoir une différence de 1 à 2 euros le plat. Voilà, un plat végétarien coûte 12 euros et un plat avec viande ou poisson, c'est 14 ou 15. Voilà. C'est
pas rien de scandaleux, quoi.
Exactement. Voilà. Donc non, on étudie vraiment les proportions, même au quotidien. C'est d'abord, je l'ai fait d'abord chez moi avant de le mettre en place au restaurant. Et c'est là où on se rend compte que vraiment le végétal peut être accessible en jouant avec les céréales et que ce n'est pas la viande qui fait tout, quoi.
Et on est dans la conscience de ce qu'on mange, hein. Et il paraît que, par exemple, chez vous, on mange du pain si on le demande.
Exactement, on ne va pas le mettre d'office, on va le considérer comme une part de céréales, surtout si nos assiettes ont déjà du riz, des pâtes ou des pommes de terre. On ne va pas mettre d'office le pain.
Moi, je me fais toujours avoir, je dévore la panière avant même d'avoir,
ouais,
mon plat.
Exactement, c'est ce que beaucoup de personnes font, donc nous, on a décidé de ne pas le faire. Et pour le coup, beaucoup de personnes en mangent beaucoup moins, et ce n'est pas plus mal parce que ça reste une petite boule de sucre qui peut être bonne de temps en temps, mais en excès, pareil, ça a un impact.
Et donc les restaurateurs peuvent vous contacter? Comment ça marche?
Eh bien, tout à fait, on peut nous contacter. Et l'idée, c'est d'accompagner d'autres restaurants qui voudraient s'améliorer. Alors, pareil, on a différents niveaux pour être restaurateur. On ne devient pas autant engagé que nous. On a mis 10 ans, finalement.
Bien sûr.
Et il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire, des toutes petites choses simples.
Comme quoi, par exemple?
Comme, je ne sais pas, minimiser l'utilisation de papier. Par exemple, on utilise beaucoup de feuilles de prod, de production en restauration. On peut les plastifier pour les réutiliser, par exemple. On a juste à essuyer, ça évite de réimprimer tous les jours le même papier. Il y a plein de petites astuces dans notre façon de travailler, nous, en interne, pour économiser un tas de choses, en fait, et d'arrêter de gaspiller. Ou même de s'entraider entre restaurants pour centraliser nos achats, pour accéder à des bons produits bio ou respectueux de l'environnement. Il faut souvent atteindre des minimums de commandes. Et quand on se rassemble tous ensemble, eh ben, on atteint ce minimum de commandes et on n'a pas besoin de le stocker chacun dans notre coin. Voilà. L'idée, c'est de s'entraider. Tout seul dans notre coin, c'est beaucoup plus dur. Plus on est nombreux et plus finalement, c'est plus sympa en plus, c'est plus chaleureux et on peut faire un tas de choses.
Génial, Marie. Merci beaucoup.
De rien.
Vous nous avez parlé donc du coup du mouvement des restaurateurs et vous, votre restaurant s'appelle Vermidi. On peut trouver toutes les informations sur vermidi.net, mais également vous retrouverez tout ça sur le groupe Facebook Ça commence par nous. Tout de suite, on va entendre Angèle de la Guinguette d'Angèle qui va du coup nous parler de naturopathie et de comment à la fois bien manger, mais aussi que ce soit bon pour la santé et pour nos papilles.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par moi. Ça commence par nous.
Ça commence effectivement par nous et l'alimentation durable est un sujet hyper vaste. Bon, le but quand même, c'est de bien manger. Je suis parti voir Angèle qui a créé la guinguette d'Angèle et elle nous explique comment repenser son alimentation pour respecter la planète, sa santé, mais aussi en prendre plein les papilles.
Alors, je m'appelle Angèle Ferremag, je suis naturopathe, passionnée de cuisine et de santé. Et en fait, j'ai marié les deux pour faire le boulot de mes rêves. Donc en fait, je suis chef de cuisine qui fait du bien au corps et pas de mal à la planète. Donc j'ai deux petits restaurants. J'ai écrit aussi des livres pour que les gens puissent refaire ces recettes chez eux. Je vais aussi faire une émission l'été prochain avec France 5 sur la longévité, les techniques pour rester en bonne santé naturelle, évidemment.
Et Angèle a un bon plan pour bien manger sans dépenser une fortune.
Je vais dire le truc le plus concret que j'ai moi dans mon quotidien par rapport à ça, c'est de faire le marché une fois par semaine parce que je suis consciente qu'on n'a pas le temps, que les gens travaillent, qu'il y a... En plus, quand on a des enfants ou pire, un mari. Non, je rigole. Enfin, quand il y a du monde à la maison qui prennent de l'énergie et du temps, etc., on n'a pas toujours le temps de s'occuper de ça. J'entends aussi souvent, mais ça coûte cher et tout ça, c'est faux, en fait. On peut tout à fait se nourrir avec notre terroir en très peu de temps, de façon assez ludique. Donc, ma technique à moi, c'est de faire le marché bio une fois par semaine, le dimanche. J'achète tout plein de légumes bio... avec leurs fans, avec leurs racines, tout au contraire, j'adore. S'ils sont bio, j'ai pas besoin de les éplucher, donc déjà je gagne un temps fou, ni d'enlever les fans, ni les feuilles et tout ça, je gagne un temps fou, je les rince juste et puis je les brosse à la rigueur. Mais encore, la terre, ça me dérange pas trop. Et ensuite, je les mets au four à 180 degrés, mais tous ensemble, hein, les carottes avec leurs fans, les navets, les betteraves, les radis, les pommes de terre, tout. Je les mets au four à 180 degrés, pendant une demi-heure, 45 minutes, ça va dépendre un petit peu des légumes que j'ai choisis. Même des fruits, on peut faire ça. Et puis pendant ce temps-là, je fais cuire une grosse casserole avec de quinoa rouge ou riz ou camut, enfin un peu ce que je veux. Je fais un paquet. Et là, en fait, avec cette base, j'ai mes repas pour la semaine. Je pourrais prendre ces légumes, rajouter une petite sauce et des herbes dessus et j'aurais une salade de légumes. Je pourrais les mixer, en faire de la soupe. Ou alors les mélanger à mon riz ou mon quinoa avec une petite crème végétale, par exemple, et j'aurai un risotto. Le lendemain du risotto, j'en ferai des boulettes et je ferai des arancini. En fait, ça simplifie à fond la vie d'avoir ces trucs déjà prêts. Et puis, je pense que le mieux est l'ennemi du bien et qu'on sait qu'on ne peut pas faire du super frais en temps réel, trois fois par jour. Donc ça, pour moi, c'est un bon plan. Après, il faut toujours ajouter une petite crudité, un truc comme ça, mais il suffit de mettre... Il suffit de mettre un fenouil coupé en quatre au milieu de la table et puis de l'huile d'olive. En fait, ça suffit. Il faut se faciliter la vie.
Exactement.
Et quand les légumes sont de saison, ils sont moins chers. Et dans le monde du bio, c'est surtout les protéines animales qui sont onéreuses. Donc si on en consomme moins, on sait qu'on n'en a pas besoin plus d'une fois par semaine, même pour les enfants. Donc ça suffit, en fait. Une fois par semaine, on se fait... Enfin, si on n'est pas végétarien ni végétalien, on peut se permettre de se faire une bonne protéine animale. Pas de batterie, bien sûr, hein, qui soit un minimum quand même respecté. Et puis sinon, le reste du temps, en fait, on peut très bien faire avec les algues, les champignons. Enfin, ça suffit largement, les graines germées aussi. Quand on les fait soi-même, ça coûte pas cher du tout. Il suffit d'un pot à confiture vide et d'une compresse stérile. Et on a tout ce qu'il nous faut.
Et bien manger, c'est important, mais c'est encore mieux quand on le fait dans la bonne humeur, non?
Et puis, nous aussi, ici, donc on est dans le 14e arrondissement et on a la chance d'avoir un jardin dans lequel on fait voir les paysans de Paname nous livrent à vélo. Et puis, la façon de cuisiner aussi. Les filles sont souvent de bons poils. L'ambiance est agréable. On a certains outils comme le bol d'air jacquier ou le champ de fleurs, ce genre de choses pour que le bien-être soit présent. Et puis, le service aussi. C'est important que les gens soient servis d'une façon assez généreuse et on espère que leur façon de manger sera aussi en conscience, donc qu'ils mangeront peut-être lentement, peut-être en s'imaginant d'où ça vient ou en tout cas dans la bonne humeur.
Voilà, et pour que vous puissiez découvrir les préparations d'Angèle, elle nous en dit plus sur ces deux restaurants.
Alors il y en a un qui est vraiment petit parce qu'il fait 2 mètres carrés, qui est un restaurant emporté dans le premier arrondissement. Rue Coquière, et l'autre qui est un peu plus grand, mais pas tellement, qui a un salon de thé dans lequel on peut aller jusqu'à un peu plus tard. Et donc on y trouve tous les jours des lunchbox, donc végétaliennes ou omnivores, mais omnivores ce sera ou du chèvre frais, ou du poisson français, ou de la volaille française aussi. Mais en tout cas, on cuisine jamais de porc, jamais de bœuf. Et donc ça, c'est important pour nous. Et en fait, on a toujours un menu qui est complètement végétalien. Donc on a aussi des soupes, des gazpacho, des jus qui sont super frais, des desserts, des salades, des toasts. Voilà, on a plein de trucs. Et puis tout est fait de façon consciente.
Vous pourrez retrouver cette interview sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Et pour en savoir plus sur la guinguette d'Angèle, je vous invite à vous rendre sur son site laguinguettedangèle.com.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par moi. Ça commence par nous.
On est toujours dans l'émission Ça commence par nous et c'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage. Anne-Sophie est avec moi pour nous donner le bon plan de One Heart afin d'avoir une alimentation plus éco-responsable. Salut Anne-Sophie.
Salut Julien. Écoute, je suis très heureuse de vous parler à tous aujourd'hui du Château Éthique à Nanterre. J'étais à l'inauguration pour One Heart, car Château vient tout juste d'ouvrir ses portes la semaine dernière. C'est un laboratoire de transition alimentaire et un pôle d'innovation sociale.
Ça fait beaucoup de mots compliqués, ça, en français, ça veut dire quoi?
Alors, écoute, tout se passe dans un beau château du 19e, totalement refait à neuf, avec beaucoup de goût. Il y a un restaurant, des espaces de coworking, un potager cultivé en permaculture et un incubateur culinaire. En fait, le but de cet endroit est de promouvoir une alimentation saine et durable.
Et c'est ouvert au public?
C'est ouvert au public, ouais, une grande partie du château l'est en tout cas. Il y a le restaurant, d'abord, qui cuisine des produits locaux issus de l'agriculture responsable. Il invite des chefs qui viennent avec de nouvelles idées du genre cuisiner sans gluten, apprendre à cuisiner la spiruline et organise des échanges avec les clients.
Et il y a un potager aussi, n'est-ce pas?
Il y a un immense potager, ouais, cultivé en permaculture. Bien sûr, une partie de la récolte est utilisée dans les cuisines du château. Donc Jean-Luc Fessard sera content, parce que ça réduit le bilan carbone. Mais l'association qui gère le potager organise aussi des ateliers pour les particuliers. Des ateliers très variés qui vont du jardinage à l'observation de la nature. On peut même apprendre à méditer.
Tu nous parlais aussi d'un incubateur culinaire tout à l'heure. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît?
Oui, ce sont des cuisines partagées. En fait, sur le même principe que des espaces de coworking, pour les bureaux. En fait, l'idée est géniale, c'est permettre à des petites start-up d'alimentation responsable de partager leur cuisine pour réduire leurs coûts.
Et ces cuisines sont ouvertes aux particuliers?
Oui, on peut participer aux ateliers pour apprendre à lutter contre le gaspillage, cuisiner avec des restes ou utiliser des produits de saison, tout simplement.
Tu as quelques exemples de start-up food hébergés dans ces cuisines?
Il y a l'artisan saucier qui fait des fonds de sauce bio. Il y a les petits donuts, des donuts cuits au four, qui ne sont pas frits, donc qui sont plus légers. Ou encore les sirops bio ou l'empirique. En fait, la bonne nouvelle, c'est que vous retrouvez tous ces produits au restaurant du château.
Toi, Anne-Sophie, tu es allée là-bas. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement?
Alors, j'ai particulièrement été séduite par l'endroit, parce que ce lieu rassemble dans un seul et même endroit des associations et des start-up, et des particuliers qui veulent tous la même chose, une alimentation durable.
Le mot de la fin?
Eh bien, c'est à Nanterre, ville, à 5 minutes du RER, donc à 15 minutes du centre de Paris, dans un parc superbe, entouré d'arbres. On a fait un chouette sujet vidéo au moment de l'inauguration que vous pouvez visionner sur One Heart pour découvrir en images ce lieu particulièrement accueillant et vivant et qui, selon moi, permet de trouver les clés pour améliorer sa manière de s'alimenter.
On postera aussi cette vidéo sur le groupe Facebook de Ça commence par nous, auquel vous pouvez dès à présent vous abonner. Merci Anne-Sophie.
Merci Julien.
Tout de suite après, on a les confitures rebelles avec Hélène Dénéni, pour le moment zéro déchet. Et pour se donner définitivement faim, on aura Flo au téléphone qui nous expliquera comment faire ses propres fromages végétaux. A tout de suite après un petit break musical.
Sur son boulevard, les néons phares décorent en rose et noir.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Des solutions concrètes pour construire un monde meilleur au quotidien, c'est notre credo. Retour dans Ça commence par nous sur Rage. On continue à parler d'alimentation durable et c'est Hélène Dédény qui va nous expliquer comment on peut passer en mode zéro déchet dans notre alimentation. Salut Hélène.
Salut Julien, merci. Alors oui, en effet, quand on pense alimentation durable, on doit aussi penser zéro waste parce qu'on a déjà parlé voilà, du bio, de bien s'alimenter, de nutriments. Mais zéro waste, ça veut dire quoi? C'est le zéro gâchis, zéro déchet. Et donc pour être cohérent, il faut aussi faire attention au suremballage. Et également à l'alimentation qu'on ne va pas utiliser, qu'on ne va pas ingérer. Aujourd'hui, 20 à 30 kilos d'aliments sont jetés par personne et par an en France, dont 7 kilos qui sont encore emballés. Alors comment on peut s'en rendre compte? En scrutant tout simplement sa poubelle. Même si vous n'avez pas accès à un compost proche ou pas la place d'installer un lombricompost chez vous, on sait que ce n'est pas forcément simple, bah vous pouvez toujours commencer à faire le tri entre les recyclables, ça en général on le fait avec la poubelle jaune, les biodéchets et le reste. Alors en général les biodéchets représentent 40% de notre poubelle. Alors on verra au fil des émissions, ça commence par nous, on va vous apprendre comment réduire tout ça, tout le, ce qu'on appelle le reste, le résiduel. Mais aujourd'hui, on va voir comment réduire la part alimentaire gâchée. Et ça commence par, eh bien tout simplement, vous pouvez acheter bio. Parce que quand vous allez acheter bio, vous avez juste à passer un coup de brosse sur vos légumes plutôt que d'en éplucher la peau. Et rien que ces épluchures, en fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est un déchet. C'est quelque chose où on a dû utiliser de l'eau, de l'énergie, vraiment pour le faire pousser, et puis le transporter, l'emmener chez vous. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le jeter directement? Non. Disons qu'on peut récupérer toute cette matière. Le Zero Waste vous apprend, là encore, à changer d'indicateur également. Il ne s'agit pas de comparer les prix au kilo, mais les prix aux nutriments. Quand vous voyez qu'une pomme bio a 50 fois plus de nutriments qu'une conventionnelle, vous comprenez que vous pouvez acheter moins, mais mieux. Effectivement, si vous comparez les prix par nutriments, finalement, votre nourriture va vous coûter beaucoup moins cher. Et comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut aussi réduire nos quantités et être tout à fait suffisamment alimenté. Donc pour éviter le gâchis, on va voir aussi une autre initiative avec les confitures rebelles. Bonjour à vous. Est-ce que on peut parler confiture rebelle? Ça m'évoque vraiment un terme super sympa d'action, de mouvement. À quoi ça se réfère?
Bonjour. Donc les confitures rebelles, c'est des confitures qui sont faites avec des fruits et légumes invendus. À Romainville, en Seine-Saint-Denis, on collecte quotidiennement des fruits invendus auprès de marchés, supermarchés, et on les transforme en délicieuses confitures de qualité qu'on revend ensuite dans les marchés, les supermarchés dans lesquels on a pris les fruits.
Et ces confitures, elles coûtent plus cher ou moins cher vu qu'elles sont faites avec des produits qui allaient être jetés?
Ces confitures, elles coûtent 3,90 €, qui est un prix moyen de confiture artisanale qui correspond à la fois à notre coût à nous pour aller chercher les fruits et faire toute collecte de sauvetage de fruits un par un, et aussi à la qualité du produit qu'on fait sur la cuisson en petite quantité, la création des recettes en fonction de tout ce qu'on, des fruits qu'on a, puisqu'on doit toujours créer des nouvelles recettes en fonction des fruits collectés. Donc voilà, c'est vraiment une qualité différente, et puis un produit qui... l'idée, c'est vraiment de revaloriser les fruits, de leur donner une nouvelle valeur.
Bah oui, parce que le fait qu'ils soient moches, une fois qu'ils terminent en confiture, on ne le voit plus trop, en fait. Hein.
Exactement. Le goût est identique. Et puis, en plus, même, on ne travaille que des fruits frais. On n'a pas du tout d'étape de congélation. Donc, on a une confiture qui est encore meilleure.
Tu disais, Colette, que vous inventez presque les recettes au fur et à mesure. Tu peux nous faire un peu rêver, là? Tu peux nous faire saliver?
Qu'est-ce qu'on a? On a de la confiture de banane orange, de la confiture pomme raisin gingembre, melon orange. On fait aussi la confiture de légumes avec une confiture de tomate poivron piment qui marche très bien en sucré salé, ouais. Avec des petites tartines de chèvre.
Ça a l'air incroyable, hein, ça. Ça me donne envie de repasser à déjeuner, là.
Mais du coup, où est-ce que je les achète, moi, les confitures rebelles?
On est pour l'instant distribués en Ile-de-France principalement. Il y a tous nos points de vente sur notre site internet, confiturerebelle.fr. Donc, il y a des épiceries fines, des concept stores, des magasins qui font des produits locaux. Et puis, on est aussi dans certains magasins Monoprix, puisqu'on collecte des fruits aussi chez eux.
Et le nom, confiture rebelle, c'est pas qu'elles ont un piquet de grève, hein, les confitures, c'est ça?
C'est à la fois, on a envie un peu de rompre ce côté gaspillage alimentaire, de fruits qui arrivent de l'autre bout de la planète, qui sont pas consommés. Donc on se rebelle un peu contre ce côté hyper négatif de notre alimentation aujourd'hui. Et en même temps, et surtout, on a envie de faire un beau produit, un bon produit qui plaît. Donc c'est un peu la double idée de rebelle.
Génial. Un dernier mot, peut-être?
Il faut surtout les tester et les goûter. C'est ça qui est le plus important.
Exactement. Moi, je les ai testées, les confitures rebelles. Et je vais vous dire un secret. Je les trouve meilleures que celles de ma maman. Je suis désolé, maman, qui écoute cette émission. Elle va me déshériter à cause de vous. Mais elles sont vraiment, vraiment bonnes, ces confitures rebelles. Donc, du coup, si vous voulez avoir toutes les informations pour en savoir plus sur ces confitures, vous pouvez aller sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Et comme le disait Colette, sur le site internet confiturerebelle.fr. Tout de suite, on enchaîne avec une autre anomalie alimentaire qui va nous faire vibrer les papilles. On n'en a pas l'habitude, c'est le fromage végétal. Je suis allé voir Flo des cuisines végé de Flo et elle nous explique qu'est-ce que c'est le fromage végétal.
Bonjour Flo.
Bonjour Julien.
Qu'est-ce que c'est exactement la cuisine végé de Flo? Alors la cuisine végétale, c'est une cuisine qui est 100% végétale. C'est une cuisine qui utilise principalement des ingrédients bio, locaux, avec des ingrédients, des produits de saison, des légumes de saison notamment. La cuisine végé de Flo, c'est notamment la spécialité de Flo, c'est les fromages. Donc les fromages, en fait, c'est une alternative au fromage. C'est du fromage végétal, mais j'avais envie de leur donner un petit nom.
Donc tu nous dis qu'il n'y a pas besoin d'avoir de lait pour faire des fromages.
Alors, tout à fait. Il n'y a pas besoin d'avoir du lait. En tout cas, si on peut utiliser du lait dans certaines recettes, ce sera du lait végétal, puisqu'on a la chance d'avoir énormément de lait végétaux. Alors le plus connu reste le lait de soja, mais il n'y a pas que celui-ci. Il y a le lait de riz, le lait d'avoine, le lait d'amande, etc. Il y en a une vingtaine, hein, je ne vais pas tous les citer. On va être sur d'autres ingrédients qui seront la noix de cajou, les amandes, la graine de tournesol. Effectivement, on peut faire des fromages végétaux avec ces produits-là. L'idée n'est pas forcément de reproduire à l'identique le fromage. L'idée, c'est de se régaler, en fait.
Du coup, c'est des fromages qui sont véganes. Mais moi, quand je les vois visuellement, on a quand même l'impression que c'est des fromages, non? Est-ce que dans le travail, la fabrication de ces fromages, on retrouve un peu les mêmes étapes?
Il y a deux types de fromages que je fais. Il y a les frais. Donc, ceux-là, ils ont une conservation qui est à peu près de 10 jours. Donc, on les fait, on peut les consommer tout de suite. Ils peuvent se manger tel quel, ils peuvent aussi s'intégrer dans des plats. Je vais donner deux exemples. Il y en a un qui s'appelle la tozza, qui est en fait la version végétale de la mozza. Donc typiquement, moi j'aime bien le mettre sur une pizza, il va fondre en plus, donc c'est top. Le lullard, c'est la version végétale du cheddar. Et sur un burger, sur un croque, il est très bon. Ensuite, il y a les fromages frais et les fromages fermentés. Donc ceux-là, ils vont déjà avoir quelque chose de plus similaire avec le fromage conventionnel au lait d'origine animale, puisqu'il y a un processus de fermentation et d'affinage. Et là, on est sur des textures qui sont déjà différentes par rapport aux frais, et on est sur des goûts qui sont aussi plus prononcés. Alors, certaines personnes vont préférer les frais, d'autres vont préférer les fermentés, mais il y en a vraiment, du coup, pour tous les goûts.
Alors, donc, du coup, tu me disais, Flo, qu'il y a des fromages qui sont faciles à faire. Est-ce que tu peux me donner un exemple, s'il te plaît?
Oui, alors, du coup, typiquement, il y a un crémeux qui est vraiment facile à faire, qui demande en plus pas de temps d'affinage, donc on peut le faire et le manger tout de suite dans la foulée. C'est un crémeux qui est fait à base de noix de cajou, donc il suffit de mettre 85 grammes de noix de cajou, d'utiliser du tofu lacto-fermenté nature que vous trouvez dans les magasins bio, 100 grammes. Voilà, vous mixez tout ça dans un robot avec une cuillère de jus de citron, un peu de sel, vous mettez bien de l'eau et ensuite, une fois que vous avez mixé, que vous avez la texture que vous souhaitez, il ne faut pas hésiter à rajouter de l'eau si vous trouvez que ce n'est pas assez liquide, il ne faut vraiment pas hésiter. Après avoir mixé tout ça, vous mettez l'assaisonnement que vous souhaitez, c'est-à-dire que vous pouvez faire échalote ciboulette. Vous pouvez mettre curry cumin, vous pouvez mettre de la menthe, c'est super bon, c'est super frais. Après, j'ai envie de dire, mettez ce que vous avez envie et ce que vous aimez. C'est un crémeux qui se mange comme ça, sur des tartines, mais vous pouvez aussi les intégrer dans des verrines. Vous ferez votre propre avis, mais ça peut régaler les papilles quand même.
Bah, génial, moi en tout cas, en voyant le stand, c'est vrai que j'avais hyper faim. Je te remercie pour ton temps, Flo, merci encore.
Merci à toi, Julien.
Allez, au revoir.
Au revoir.
On peut retrouver d'autres recettes de la cuisine végé de Flo sur leur site internet et sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. On a de la chance, on va encore profiter de nos invités pour le débrief, mais juste avant, une petite pause.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Look in your eyes. Lady, hear me tonight.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
De retour sur le plateau de l'émission Ça commence par nous, on a encore beaucoup de travail et beaucoup de choses à vous dire et on en profite d'avoir tous ces invités autour de la table pour continuer à discuter d'actions concrètes pour rendre son alimentation plus durable. Moi par exemple, j'avoue que entre le bio, le local, le végétarien, le vegan, le sans gluten, je me sens un peu noyé par toutes ces informations. Selon vous, si on devait retenir peut-être juste un axe de travail pour préserver la planète, qu'est-ce qu'on commencerait par faire ?
Moi, je peux parler de mon expérience personnelle, à savoir que j'ai fait un choix. Je ne suis pas végétarien, mais j'ai décidé de ne plus manger de mammifères. Alors, pour plein de raisons. Il y a d'abord le côté souffrance animale, mais aussi parce que les mammifères, c'est eux qui ont le plus mauvais poids carbone. Et donc, à partir du moment où je ne mets plus que de la volaille, de la dinde, du poulet, du canard, dans mon alimentation, j'ai mécaniquement un impact très fort au niveau du poids carbone de mon alimentation. C'est un truc simple à faire, ça marche.
Merci Jean-Luc. Marie, peut-être une astuce, quelque chose ?
Simplement manger des légumes. C'est tout bête, c'est simple, mais il y a tellement de personnes qui ne mangent pas de légumes, en fait, qui ne mangent que des pâtes ou des pommes de terre, qui ne sont pas des légumes. Voilà, 30 légumes dans votre assiette, vous allez voir, c'est super bon.
Mais sans devenir végétarien, alors ?
Non, pas spécialement, de diminuer la part, et que quand on en mange, il doit être vraiment de qualité, et qu'il est cuit de façon... Voilà, heureux, qu'il a pu courir, bien manger. Voilà, de réfléchir à, quand on achète de la viande, voilà, comment l'animal a vécu et d'où il vient.
Et toi, Hélène, qui est à fond dans le zéro déchet, tu manges des cakes aux pots de banane, des soupes aux fans de carottes ?
Soupe aux fans de carottes, oui, ça, ça peut. Même si, alors moi, effectivement, sur l'alimentation, j'ai suivi donc un cursus en alimentation, en nutrition par la science de la Monash University en Australie, qui est donc réputée là-dessus. Effectivement, je retrouvais tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qu'on retrouve dans les assiettes vers midi, le fait d'avoir plus de nutriments et de vraiment remettre ça au cœur de notre alimentation, ce qui se retrouve dans les légumes. Et c'est vrai que moi, je suis devenue végétarienne, puis végétalienne, pour justement avoir cette complémentarité de tous les nutriments, tous les magnésiums, tous les minéraux, en ayant l'impact carbone le moins important, aussi l'éthique, l'écologie, mais aussi la santé. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention, et on le dit aux auditeurs, sur de ne pas suivre des effets de mode, de pas, de s'interroger réellement sur ce qui est fait, de suivre le conseil des restaurateurs aussi, et de voir jusqu'où on peut aller personnellement, par choix et en s'interrogeant. Et nous, dans cette émission, on favorise toujours l'esprit critique. Donc la première des choses à faire, c'est de favoriser son esprit critique, d'être curieux, de tester des nouvelles choses. Moi, il y a encore 5 ans, je n'aimais pas la salade verte. Et en fait, notre palais s'habitue. Et ne serait-ce que notre flore intestinale, en fait, va s'habituer aussi à pouvoir digérer plus facilement et ne plus avoir ce fameux coup de barre post-digestion du déjeuner qui n'est pas une fin en soi, qui n'est pas naturelle.
Et je confirme à tous nos auditeurs que Hélène, bien qu'elle soit végétalienne, a l'air vraiment en pleine forme. Hein. Elle n'a pas l'air du tout carencée. Ou tu caches bien ton jeu.
Ce qu'il faut préciser, quand il parle de légumes, il faut parler aussi des légumineuses.
Exactement. Hein,
parce que ce qui est très important, c'est les protéines, qui sont les protéines animales. Quand on veut les remplacer, il faut les remplacer par des protéines végétales. Et c'est principalement dans les légumineuses qu'on trouve. Alors, c'est les lentilles, les choses. Et par exemple, on arrive à faire des choses absolument extraordinaires. Moi, un des meilleurs desserts que j'ai mangé récemment, c'était un chef qui avait fait un dessert avec une crème de panais, avec des lentilles corail confites, et dessus des morceaux de pommes. Il y avait deux légumes, et pour un dessert, on parle d'un dessert. C'était vraiment absolument délicieux.
Donc on dit qu'il ne faut pas forcément arrêter non plus de manger de la viande, hein, on est d'accord. Moi, de temps en temps, c'est un peu le débat du bio ou du local qui me pose question. Tout à l'heure, Colette, on disait, c'est vrai que nous, on est principalement avec Rebelle sur le gaspillage alimentaire, mais pas le bio. Pourquoi ?
Aujourd'hui, on collecte principalement des fruits invendus. Et là où il y a le plus de gaspillage aujourd'hui, c'est en grande distribution et où il y a peu de bio. Donc, on a une partie de nos confitures qui contiennent des fruits bio, mais pas le principal. Et notre combat, notre idée, c'est de déjà réduire le gaspillage alimentaire. Et après, moi, à titre personnel, c'est vrai que j'aime bien justement combiner. Enfin, je sais que sur certains produits, je vais me faire plaisir sur du local, sur d'autres, sur du bio. Et c'est un peu, voilà, il y a tellement de choses qui existent qu'on peut faire des efforts un peu à droite, à gauche, sans s'imposer. Ben, si on veut tout faire parfait tout de suite, c'est trop dur. Mais du coup, on peut tester plein de choses. Et une troisième chose que j'aurais envie de dire, c'est vraiment aussi se réapprendre à cuisiner et reprendre du plaisir en fait à la cuisine, parce que c'est là qu'on se reconnecte avec ce qu'on mange, on devient curieux, on teste des choses et là c'est, ça a un impact aussi sur son bien-être et aussi sur la planète.
Allez, je jette un hamburger dans la mare. Je suis passé tout à l'heure devant une pub McDo, il y a un hamburger végétarien. On aime, on n'aime pas?
Moi je dis super, et un des messages que je fais passer, pourtant je suis écologiste, c'est que si tous les restaurants en France avaient mis en place les dispositifs que McDo a mis en place, on serait très en avance au niveau restauration sur l'écologie. Alors, ceci étant dit, je ne suis pas personnellement client et consommateur. Je suis allé chez McDo quand mes filles étaient plus jeunes, mais maintenant, personnellement, je n'y vais pas. Mmh. Mais ils font un travail fabuleux. Et donc, il faut sortir des idées préconçues. C'est des gens qui ont travaillé, par exemple, on parlait des déchets, le recyclage des huiles alimentaires, qui ont fait énormément de choses. Approvisionnement, l'essentiel de leur viande est en approvisionnement local. Enfin, ils ont fait énormément de choses. Après, on aime, on n'aime pas. Personnellement, les hamburgers, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais voilà. Bon.
Ouais, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de tout questionner en permanence. Il y a un autre concept que j'ai vu surgir il n'y a pas longtemps, c'est le cru. Anne-Sophie, vous avez identifié un restaurant cru à Paris, non ?
C'est 42 degrés,
ouais,
c'est ça ?
Exact. Ouais,
absolument. Dans le 9e, si je me souviens bien. Moi, mon conseil de mère de 4 enfants pour réduire l'assiette carbone, le bilan carbone de l'assiette de nos assiettes, c'est quand je fais les courses avec mes enfants, c'est de manger de saison et regarder la provenance des fruits et légumes qu'on achète. C'est aussi un jeu qu'on peut faire avec ses enfants. La mangue qui vient du Brésil, où c'est le Brésil? T'as vu tout le...
géographie dans le supermarché.
Exactement. Non, mais oui, ouais, absolument. Et puis manger de saison, c'est on peut apprendre à nos enfants la patience de goûter la première fraise, faire un vœu quand on mange sa première fraise de la saison. Voilà, c'est des petits trucs comme ça assez logiques.
Ouais.
Quand même, en termes de poids carbone, on a quand même ce qu'on appelle l'exception Marco Polo. C'est-à-dire, si un produit n'est pas produit localement, on ne va pas s'en passer. On peut très bien, peut-être évoquer les bananes, on peut très bien faire venir des bananes. Après, c'est une question de proportion de ce légume, ce fruit, dans l'ensemble de la recette. Mais on peut, évidemment, on ne va pas se passer forcément de café, de chocolat, alors que ce n'est pas produit.
On est d'accord qu'ils ne viennent pas en caravelle. Hein.
Voilà, alors, merci de préciser ça. C'est à condition que ça arrive en bateau.
Oui, d'accord, c'est ça. Voilà. Et là, on a plein de gens qui nous écoutent. Hein. On cible les consommateurs, mais il y a aussi des restaurateurs. Il y a aussi des personnes qui font voyager tous ces aliments. Tous ont un rôle à jouer, vous pensez ?
Ah oui, alors ça, nous, si on a démarré par les restaurateurs, c'est parce qu'ils ont une vocation d'exemplarité. C'est-à-dire, la plupart des gens vont manger dans un restaurant. Et quand on parle de restaurant, c'est toutes les catégories, depuis des restaurants étoilés jusqu'au fast-food du coin. Et c'est là où ils découvrent des recettes, ils trouvent des idées, et puis après, ben, ils les reproduisent. Et donc, c'est pourquoi c'est important que ce soit des chefs, c'est parce que, et ce qu'il faut, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redirai, c'est qu'il faut que ce soit délicieux. Changer mon alimentation à condition que ce soit délicieux. Sinon, je le fais pas. Voilà.
Marie, le premier conseil qu'on peut donner à un restaurateur qui a envie de s'y mettre et de changer un peu la tendance, qu'est-ce que ça serait ?
Je vais être en boucle, mais de faire baisser la part animale de l'assiette, ou au moins, comme le dit Jean-Luc, d'avoir une assiette végétale. Voilà, de proposer un petit peu de légumes et pas que des protéines animales dans la carte.
Ouais, ça vient de plus en plus. Moi, par exemple, je suis végétarien. Je sais que maintenant, je peux à peu près rentrer dans tous les restaurants et j'aurai toujours une option, et pas forcément que de la salade en plus. Hein. C'est le cas, toi aussi, tu vis ça, Hélène ?
Oui, c'est vrai qu'on a vraiment le choix absolument partout. Souvent, les personnes demandent « mais c'est pas trop contraignant de sortir ?» Non, pas du tout. Je me pose même pas la question, en fait. ou alors c'est moi qui choisis le restaurant. et mes amis aiment vraiment beaucoup ça. Maintenant, je suis sélectionnée à chaque fois pour aller rechercher la nouvelle perle rare, le nouveau restaurant qu'on va pouvoir découvrir et qui est engagé justement sur une carte un petit peu différente, souvent très sympathique, avec moins de plats, mais des choses qui vont être plus crues, plus locales et avoir un aspect un peu différent de ce dont on a l'habitude, même si effectivement, si vous avez l'habitude d'aller chez McDo, eh bien, bon, moi, je préfère ne pas y aller, forcément. Je ne trouve pas que ce soit une alimentation très saine. Néanmoins, si vous y allez, prenez l'option végétarienne, tant mieux. Il faut encourager.
L'impact est considérablement différent. Merci à tous. Effectivement, je crois que le message qui reste un peu de tout ça, c'est de se dire qu'il faut se faire plaisir. Hein. Nous, on a de la chance en France, on mange pour le plaisir. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'on mange plusieurs fois par jour. Ce qui veut dire qu'on a plusieurs occasions tous les jours de changer nos habitudes, de faire un geste. Au début, peut-être qu'on va prendre du poulet au lieu de prendre du bœuf. Et puis peut-être qu'après, on va réussir à faire une journée végétarienne, ce qui va devenir un défi. On va tester de nouvelles recettes et on va s'éclater. Mais vraiment, le but, c'est qu'à la fin, même si forcément l'environnement sera gagnant, c'est surtout nos papilles qui en prennent plein les yeux. Voilà. Merci à tous nos invités pour leurs interventions de qualité. Pour rappel, on a eu Jean-Luc Fressard de l'association Bon pour le Climat, Marie Ménajowski-Poirier du restaurant Vers Midi, Angèle Feremac de la Guinguette d'Angèle, Colette Rapp des Confitures Rebelles et Florence Rémy de la cuisine VG de Flo. Merci à vous.
Merci.
Merci. Merci Julien.
Enfin, merci à Anne-Sophie Douanhart pour son bon plan et à Hélène Dédény pour son focus zéro déchet. Merci.
Merci Julien.
Merci Julien.
Vous serez avec nous la semaine prochaine. On parlera de l'électricité verte dans l'émission Ça commence par nous. Merci Raphaël à la technique et à Fabrice, notre producteur. Maintenant, c'est à nous de jouer. Il existe des dizaines d'actions simples à mettre en place dans son quotidien. Mais surtout, il faut que ça soit bon, que ça soit un jeu et que ça nous rende heureux. Car changer le monde, ça commence par nous. À la semaine prochaine, samedi 13h. Salut.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous. I was waiting on